Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Vous vous demandez à quoi ressemble la vie d'un critique de cinéma ? Découvrez l'horrible vérité dans chaque épisode de la Réu d'écran large, avec les discussions, les débats et les engueulades de l'équipe.
Bon, on va Réu ?
Bonjour, bonjour Alexandre et Déborah.
Bonjour Antoine.
Bonjour.
Bienvenue à cette rue un peu spéciale qui a été pensée pour sonder vos âmes de cinéphiles. N'ayez crainte, ça va bien se passer. Si je fais appel à vous aujourd'hui, c'est parce que je réfléchissais à une manière de parler un peu plus personnellement de notre rapport au cinéma. Parce que de toute façon, en fait, on voit que nos lecteurs et les commentaires de nos vidéos YouTube nous posent souvent des questions sur nos choix, alors que ça soit éditoriaux ou tout simplement nos goûts, et leur façon qu'ils ont de se définir dans un océan toujours plus conséquent de films et de séries aujourd'hui rabaissés à ce terme horrible de contenu. Et c'est vrai que même en étant passionné par ce qu'on fait, ça rend pas toujours notre métier facile. Alors bien sûr, on bosse pas à l'usine, on va pas pousser, mais il y a quand même une forme de stress, de pression qu'on peut autant ressentir en tant que critique, mais aussi en tant que simple spectateur face au buffet en constant renouvellement qui s'offre à nous. Et en fait, en y réfléchissant, je me suis rendu compte que cette problématique se rapportait à un terme de plus en plus employé dans les médias, celui de surcharge informationnelle. Alors en gros, à quel moment il y a un excès d'informations qui parvient à une personne et à quel moment ça peut nuire à sa réflexion, à sa concentration, voire à son bien-être. Alors nos amis québécois, ils appellent ça très joliment l'infobésité, et en fait c'est un sujet d'étude sociologique qui date carrément des années 60 et du dysfonctionnement des entreprises. Mais maintenant, on en parle surtout face à l'arrivée d'Internet, des réseaux sociaux et des chaînes d'infos en continu qui ont bouleversé notre rapport au traitement de l'actualité, quitte à la rendre oppressante et anxiogène par sa surabondance. Et donc, en gros, si Pascal Praud vous stresse, c'est pas seulement à cause de sa connerie. Mais le truc, c'est que la surcharge informationnelle et ses effets, on n'en parle que pour l'info et pas tellement pour notre rapport à la culture. Alors qu'en fait, je pense vraiment qu'on peut faire un rapprochement par cette simple question. Est-ce qu'il y a trop de films et trop de séries? Et comment ça impacte la cinéphilie actuelle? Donc gros programme, où bien évidemment on pourrait se concentrer sur l'impact que ça a au sein d'écran large, d'un point de vue professionnel, mais ce sera le sujet d'une seconde réu. Là j'ai juste envie qu'on se concentre sur le perso, que vous me parliez de vous, de votre enfance, c'est l'heure de la thérapie, on se lâche. Donc pour commencer, Alex, est-ce que tu penses qu'il y a une fatigue actuelle face à la surproduction du cinéma et de la télévision?
Alors, en tant que spectateur, je pense qu'il n'y a pas tant de fatigue que ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est dans une heure où les gens, à une ère plutôt, où les gens ont besoin de toujours avoir quelque chose avec eux, etc. Donc on voit la prolifération des plateformes, la prolifération des films, la prolifération d'à peu près tous les domaine culturel, on va dire. Mais après, peut-être qu'il y a de moins en moins de contenu, de bon contenu. Je sais pas. C'est assez difficile de répondre à cette question en deux trois mots parce que ça peut très vite être caricatural ou schématique. Il y a beaucoup de choses évidemment. Qu'il y ait une saturation, je ne sais pas, mais qu'il y ait une saturation de certains domaines, comme on le voit notamment avec les super-héros. Tu vois, il y en avait beaucoup, il y en avait pas tant que ça il y a quoi une quinzaine, vingtaine d'années. Maintenant, il y en a énormément et les gens commencent à saturer parce qu'il y en a eu trop. Mais en vérité, est-ce qu'il y a trop de cinéma? Je pense pas. Est-ce qu'il y a trop de séries? Je suis pas sûr. Je pense qu'il y a trop de mêmes séries, trop de mêmes films, mais il y a pas trop de tout ça.
Oui, tu parles de cycles forcément. On oui. pense, enfin, on a beaucoup comparé la question des super-héros au western, mm-hmm. où le western a été florissant pendant une bonne partie du Hollywood classique avant de s'éteindre petit à petit. Et aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que finalement les super-héros vont pas connaître un terme un peu similaire, oui. ou du moins une renaissance qui va être plus ou moins celle du western? Ça peut être effectivement intéressant. Est-ce que toi, Déborah, t'as la sensation, pareil, de cette surcharge, de cette fatigue, ou moins d'une forme de stress qui peut être liée au fait de qu'il y ait beaucoup de médias différents autour de toi?
Alors si, comme Alexandre, je dois me baser uniquement en tant que spectatrice et occulter le côté professionnel, je trouve pas non plus que cette surcharge soit vraiment un fardeau ou soit très pesante pour moi. Là où je vais avoir un petit peu plus de mal, c'est à réussir à vraiment repérer ce qui peut me plaire. En fait, avant, j'avais vraiment plus l'impression... J'avais un catalogue et je me disais, bon, ok, clairement, là, on n'est pas trop sur le genre de série que j'ai envie de regarder. Tiens, là, ça a l'air sympa, ça fait 2 saisons. J'arrivais beaucoup plus vite à dire et à déterminer ce qui pouvait me plaire et ce dans quoi j'avais envie de me lancer. Là, aujourd'hui, je trouve que c'est un petit peu plus flou. Et maintenant, j'ai strictement aucun scrupule à commencer une série, regarder 3-4 épisodes, me dire, ouais, en fait, non. Et puis à totalement abandonner et lâcher la série. Ça, j'avoue que j'ai pas mal déculpabilisé là-dessus. Du coup, non, en tant que spectatrice, je dirais pas que c'est stressant, mais en tout cas, je ressens un petit peu parfois le truc du « je suis perdue dans l'immensité de ce catalogue,
ouais, c'est ça.
Que choisir véritablement ?» Et qu'est-ce qui me fait envie, en fait? C'est plutôt cette question de qu'est-ce qui me fait envie, à laquelle j'ai de moins en moins, enfin, j'ai de plus en plus de mal à répondre.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'en fait, à la limite, ce qui est problématique pour moi, il n'y a pas tant de surplus, mais ça peut être une forme de surplus, c'est qu'il y a tellement de choses, qu'on commence énormément de choses et qu'on ne les finit jamais, et qu'en fait, il y a une forme de non-aboutissement de plein, notamment pour les séries, hein, parce que c'est plus ce qui est concerné que les films, parce que les films, ça peut quand même se finir assez rapidement, ça dure 2 heures, 3 heures, grand max, on va dire. Alors que les séries, il y en a tellement, il y en a beaucoup que t'as envie de voir, et moi, il y en a beaucoup que je commence chaque année. Et au bout de 5-6 épisodes, je les termine pas, ou alors des séries que j'adore et que j'ai pas terminé parce que j'ai pas envie de voir la fin parce que je les aime trop, par exemple, ou juste au fur et à mesure, je m'en suis détaché et il y a une forme de je lance pas mal d'œuvres et en même temps j'en vois jamais vraiment le bout. Et je pense que ça, c'est une forme de problématique parce qu'il faut tout concilier et c'est impossible.
Oui, puis qu'est-ce que tu priorises, à quel moment, oui, effectivement, qu'est-ce que tu choisis de regarder quand, en fait?
Mais c'est, enfin, là maintenant t'en parles donc ça me vient, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a de ça quelques années, j'arrivais beaucoup plus à suivre différentes séries en même temps, plus de séries, en me disant bah tiens le lundi il y a tel épisode de ça et ça qui sort, et j'arrivais beaucoup plus en fait à me faire une grille, à programmer ma semaine en fait en fonction des séries que je vais regarder. Et là aujourd'hui, le fait que le modèle majoritaire maintenant sur les plateformes ce soit les sorties de tous les épisodes d'un coup, j'ai plus en fait cette discipline qu'il y avait avant où bon bah voilà, j'ai regardé mon épisode, j'attends la semaine d'après, je regarde, au pire je le regarde pas le bon jour mais je le rattrape dans la semaine quoi qu'il arrive. Alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus ce truc de bon bah tout est disponible sur la plateforme, je regarde 3 épisodes d'un coup, ça me plaît. Bon bah peut-être que je continue, peut-être que ça me plaît plus, du coup en fait je vais décider de stopper là parce que ça m'a saoulé, mais j'ai quand même l'impression que aujourd'hui genre je dois suivre 2 séries en même temps, c'est le bout du monde, alors qu'avant je regardais 5-6 en même temps, bah ça me posait beaucoup moins de problèmes.
C'est marrant que tu cites cet exemple là parce que c'est vrai que bah on pense surtout à HBO, que nous bah surtout en France on rattrapait d'une manière plus ou moins pirate avec des Game of Thrones et des trucs comme ça, mais même moi ce qui m'a plu c'est qu'au moment où Netflix était vraiment déjà majoritaire, quand Disney Plus est arrivé, au départ, je trouvais ça vraiment rafraîchissant, le côté si je veux voir mon Mandalorian, je sais que c'est mon vendredi soir et j'ai mon rendez-vous de prix, ou je sais que pendant le week-end je rattrape l'épisode, effectivement. Et il y avait ce truc assez plaisant au départ de ce côté tu prends ton rendez-vous, c'est régulier, tu sais quand ça doit tomber, c'est du coup facile de suivre la série parce que tu as ton planning. Et en fait, ils en ont tellement mis partout dans tous les sens au bout d'un moment que c'est devenu effectivement, tu as une source de stress. Mais en fait, c'est marrant que tu l'évoques comme ça parce que quand on parle de surcharge informationnelle, donc plus en rapport avec l'info, plus qu'avec la culture, mais du coup, il y a la Fondation Jean Jaurès qui s'est beaucoup questionnée sur ça et qui a remarqué via ses études qu'il y avait presque 1 Français sur 2 qui ressentait un stress, voire une fatigue face à la surcharge d'infos, que ce soit des réseaux sociaux, de la télé et la sensation de répétition. Et en fait, là, tu vois ce que tu évoques ça, c'est pourquoi finalement on arrive à moins suivre des séries ou des films. Je pense qu'il y a vraiment un lien parce que comme là où l'info peut te fatiguer et au bout d'un moment tu te dis en fait je préfère m'en couper pour me préserver un petit peu et avoir le temps justement de digérer ce qui me tombe dessus, Je pense que à force, il y a un peu ce sentiment similaire sur les films et les séries.
Ouais, je pense qu'après, au-delà de ça, c'est que l'information est de plus en plus anxiogène hein, dans un monde dans lequel on vit.
Oui.
c'est difficile d'avoir, de ne pas être stressé un minimum par ce qui nous entoure, tout simplement, que ça soit des conflits armés ou des conflits culturels ou des conflits, enfin, conflits sociaux en général. Tous les conflits sont là et dans tous les domaines.
Mm.
Donc forcément, c'est une forme de stress, en tout cas. Pour moi, sans doute pour vous aussi, qui est permanente. Mais pour l'information, enfin pour les le divertissement, les séries, les films, je pense personnellement, tu vois, tu parlais du binge watch et vous parliez tous les deux du fait que la programmation, en tout cas, le fait que certaines plateformes aient décidé, notamment Disney+, de plutôt faire des sorties hebdomadaires pour leurs séries plutôt que du binge watch, de faire des sorties intégrales comme Netflix peut le faire. Moi j'avais trouvé quand Netflix est arrivé sur le marché, donc en 2014 en France, que c'était hyper rafraîchissant au contraire. Moi je me suis dit mais c'est super, il y a les séries, elles arrivent d'un coup quoi, genre tu peux te faire, moi qui adore faire des marathons, c'était bah voilà, j'attends cette série depuis plusieurs années pour certaines, et là bah elle arrive, je vais pouvoir me la l'enquiller bam en un week-end, etc. Et j'étais trop content. Mais en fait je pense que c'est là qu'arrive une forme de déformation professionnelle où tu disais j'ai plus en plus de mal à regarder plusieurs séries en même temps. Je suis d'accord avec toi, notamment parce que quand on regarde une série maintenant, on doit y réfléchir d'une manière différente. On doit l'analyser plus que quand on la regardait juste en tant que simple divertissement pour nous. Et parce que bah, quand tu regardes 4 ou 5 séries, c'est difficile de potentiellement garder la tête dans ce que tu vas écrire sur la série sur laquelle tu es censé écrire pour ta critique, etc.
Oui, de toute façon, en plus, on voit bien que le problème actuel, c'est que nous, en étant le nez dedans toute la journée dans l'information liée à la culture, au cinéma et aux séries, t'es bombardé d'infos même. Donc, si tu veux suivre quelque chose, t'as intérêt de suivre assez vite. Hein. On l'a vu d'ailleurs bah, avec justement l'exemple de Disney+, ou leur série Marvel et Star Wars. T'as un épisode qui sort avec une grosse surprise dedans, et en fait, ils te sortent un poster du personnage, du caméo, des trucs comme ça, le lendemain de la diffusion, et tu fais, bah, on fait quoi en fait? Est-ce qu'on l'annonce nous-mêmes ou pas? Parce que la com le fait. Et en fait, moi, je suis bien content dans ce genre de cas de rattraper l'épisode le jour même pour écran large, mais c'est vrai que c'est un peu pénible, ça.
Moi, c'était, je m'étais fait la réflexion de, mon Dieu, à quel point j'arrive plus à déterminer ce qui me plaît. Bah, c'est dans les top séries de fin d'année. Mmh. J'ai fait la liste un petit peu de toutes les séries que j'avais regardées. Déjà, je me suis rendu compte que je n'avais regardé que des séries pour travailler dessus pour écran large. J'avais regardé quoi, Ahsoka, Fubar, enfin, vraiment
série.
Pas, voilà. Donc, du coup, j'en étais arrivée à la conclusion de, ben, j'ai pas de top série, en fait. J'ai pas regardé de série que j'aimais bien parce que j'étais tellement occupée à suivre l'actualité pour écran large et donc pas forcément des trucs qui me faisaient envie ou des trucs que clairement j'aurais arrêté au bout de quelques épisodes si c'était juste pour mon plaisir personnel, que j'arrive pas à mettre la main sur la petite pépite de l'année que j'arrive à trouver, ou alors je rattrape genre 2 ou 3 ans après.
J'ai l'impression que ça crée des mouvements un peu différents de visionnage auprès des spectateurs et des cinéphiles. D'un côté, il y a toujours, tu vois, cette soif d'être parmi les premiers à voir un film ou une série, d'être les premiers présents, t'as quand même toujours l'impatience. Et en même temps, il y a d'autres gens qui vont être plus dans, à partir du moment où il y a une surmédiatisation de quelque chose, ça les saoule d'avance, ils se disent, en fait, moi, ça m'agace, je préfère attendre que le truc redescende et plus tard, je rattraperai le film ou la série une fois que ça sera à mon rythme, c'est moi qui décide. Parce que justement, il y a ce besoin de se réapproprier un truc et de se dire, c'est à moi que ça appartient. Et j'ai l'impression que vous êtes un peu différent sur peut-être ces méthodologies-là, justement.
Oui, enfin après, moi, pour juste finir sur le fait qu'il y ait énormément de spoilers qui pop, notamment sur certaines séries très attendues, donc les séries Star Wars, les séries Marvel, etc. Ou même des grosses séries type Game of Thrones, etc. Moi, ça m'a changé aussi pas mal de choses sur les visionnages. Alors pour les séries dont je me contrefous, j'en ai rien à foutre d'être spoilé. Mais même si un spoil ne va pas changer potentiellement l'avis que j'aurai sur une série, etc., j'ai pas forcément envie d'être spoilé sur des séries que j'attends beaucoup. Et House of the Dragon ou alors Game of Thrones, quand c'était la dernière saison, je me souviens que je me levais très tôt le matin pour regarder l'épisode, parce que comme c'est moi qui relis tous les papiers, si j'avais pas vu l'épisode, ben j'étais cuit, quoi.
Ah.
Voilà. Donc savoir que Arya tue le grand marcheur blanc, voilà,
spoil
terminado ici. Non, bah du coup j'étais en mode, bah non, j'ai regardé 7h du matin avant de venir au boulot, quoi. Parce que sinon, bah c'est sinon je suis baisé, quoi, tout simplement. Disons les termes. Donc voilà. Après, c'est vrai qu'on n'a pas, je pense qu'on n'a pas du tout la même manière de fonctionner avec Déborah par rapport à l'impatience de découvrir certains films, etc. Moi, j'ai une tendance à prendre énormément d'avance sur à regarder tout ce qui traîne, à me dire ah ça me donne envie, ça me donne envie, etc. et à avoir envie de découvrir énormément de films, mais au moment où ils sortent, vraiment de les voir, voire de les voir en avance, quand c'est Cannes ou quand on peut avoir des projections presse, j'essaye de... Tu vois, là, juste avant, je regardais un petit peu les films que j'attends, que je me suis dit, tiens, si je devais sortir 5-6 films que j'attends beaucoup d'ici la fin de l'année, ou en tout cas qui vont sortir dans pas longtemps, je m'en suis fait une ribambelle qui sort, genre Civil War, je l'attends de fou, Kinds of Kindness de Lanthimos, The End de Joshua Oppenheimer, V Follow aussi, s'il sort, la suite de It Follows, etc. Et pareil pour les séries, il y a une série de Alfonso Cuarón sur Apple TV+, qui s'appelle Disclaimer, j'ai hâte de la voir.
J'ai déjà ton planning en tête, quoi.
Ah ouais, j'ai déjà, mais je sais exactement ce que j'attends, je sais. Et j'aime bien aussi, moi qui adore aller au Festival de Cannes, ou en tout cas qui adore aller dans les festivals, mais en particulier les festivals de Cannes, j'aime, enfin, quand j'y suis, j'ai envie de regarder le maximum de films que je peux. Notamment parce que, bah, il y en a qui sont pour le boulot, donc il faut que j'aille les voir pour nous, quoi, tout simplement. Ce qui est cool avec les festivals, notamment le Festival de Cannes, c'est qu'il y en a beaucoup, il y a quelques films dont on ne sait pas grand chose quand ils arrivent au festival.
Oui. Bah, la zone d'intérêt. Exactement. En 2023,
la zone d'intérêt, on avait une image. Et on savait que c'était l'adaptation d'un livre, du livre de Martin Amis. Mais à part ça, bah, on n'avait aucune info. On savait juste le cast et le réal, quoi. Donc, quand il y a eu le film qui a débarqué et qu'on a pu le voir en projo presse, la projection de la fête pour la presse, moi j'étais. C'est la vraie découverte, quoi. Personne ne l'a vu avant. Et donc, t'es pas influencé par les avis des personnes, ou alors t'es influencé par limite les rumeurs qui ont cours, dont tu sais même pas si elles sont vraies.
Oui, ça joue pour toi. Toi, tu veux pas savoir avant. Moi, tu veux voir le film le plus vierge possible de toute information.
Bah, tu vois, ça dépend des fois, mais à Cannes, j'avoue que j'ai tendance à essayer de. Bah, comme on fait des plannings pour essayer de mieux d'organiser au mieux, on va dire, les journées pour en voir un maximum sans mourir, je regarde un peu les pitchs forcément de certains films pour me donner une idée, ou alors parfois je vois juste que c'est un réal que j'aime bien, ou une réal, ou un scénariste, ou je sais pas quoi, et je me dis, bon, vas-y, je le mets dans le planning, peu importe de quoi ça parle, quoi. Mais j'essaye de... Enfin, le mieux, en fait, j'aime bien ne pas avoir d'avis sur les films avant de le découvrir, parce que comme ça, tu te fais ton propre avis vraiment sans aucune influence.
Ouais. Et toi, Déborah?
Je fonctionne pas du tout de la même façon qu'Alex. Moi, déjà, le Festival de Cannes, c'est clairement quelque chose qui me tente pas. Parce que justement, le fait d'enchaîner les séances de cinéma comme ça, de se coucher tard, de très peu dormir, de manger sur le pouce, vraiment le rythme en feu festival. Moi, je suis une mamie. J'ai besoin d'aller faire dodo à 23h30, après avoir mon petit thé, ma petite tisane. Enfin, voilà.
C'est pas l'ambiance
que
moi.
Entre deux séances, si je dois me faire plusieurs séance dans une journée, j'aime bien avoir une grande pause où je vais bavarder sur un banc du film et tout ça, donc le rythme Festival de Cannes, c'est clairement pas pour moi. Et surtout, j'ai pas non plus cette impatience de découvrir très 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 vite les films. Ça a été un gros sujet de plaisanterie, mais rappelons voilà quand même que Oppenheimer et Anatomie d'une chute, je les ai rattrapés au dernier moment, genre un jour avant d'envoyer les top films de l'année. Parce que quand même, je me suis dit...
Terrible.
Ah oui, Killers of the Flower Moon aussi, je l'avais rattrapé. Genre, j'avais tout rattrapé en un week-end.
Ça fait très mal, hein, quand même.
Hein. C'est gagnant qui a fini dans le classement.
Et encore, à la rigueur, pour Oppenheimer et Killers of the Flower Moon, étant donné que Nolan et Scorsese sont loin d'être mes réalisateurs préférés et je suis pas absolument en sueur sur leur cinéma... Forcément, l'attente était moindre. Là où je me suis un petit peu moins compris, c'était pour Anatomie d'une chute, où j'étais en mode « Hein, mais quoi ?» Mais même moi, j'étais un petit peu décontenancée du fait que je retardais en fait le fait de voir le film. Surtout qu'en plus, c'était vraiment un moment où tout le monde en parlait, où même si tu voulais esquiver les avis des gens, t'avais toujours un tweet, il y avait vos conversations et tout ça. Je dis pas que vous avez pollué mon truc.
C'est nous qui étions relous, c'est ça.
Mais en tout cas, j'avoue que là-dessus, il faudrait que je m'analyse un petit peu plus de pourquoi j'ai autant retardé le visionnage, surtout que une fois que je l'ai vu, j'ai bien aimé le film, j'ai trouvé très intéressant, assez passionnant à étudier, à décortiquer et tout ça. Mais oui, voilà, je rattrape les films vraiment sur le tard. J'ai pas ce truc du mercredi soir absolument d'aller en salle. Parce que moi, en plus, le mercredi soir, c'est Monday Night Raw, hein, c'est le catch. Du coup...
chacun sa spécialité.
Voilà, moi, genre le mercredi, je suis en sueur et j'attends absolument
en
le catch.
En sueur pour autre chose. C'est pas en sueur pour Nolan, c'est en sueur pour le catch.
Je suis cinéphile, hein, promis. Mais voilà, il y a ce truc de ça ne me pose pas de souci de rattraper très tard, puisque de toute façon, les films sur lesquels je suis en sang et que je veux absolument voir, je vais les voir en projection presse, en fait.
Ah, c'est ça. Je suis un peu pareil. Et en fait, moi, j'ai un peu l'équilibre entre vous deux, parce que pour les films en salle, j'ai toujours cette impatience énorme, et quand surtout c'est un film que j'attends et que j'ai pas forcément pu le voir en projo, je fonce souvent le premier jour ou, tu vois, ou le premier week-end dès que j'ai le temps. Mais par exemple, je me rends compte, moi, que c'est face à la sensation qu'il y a tellement 10 000 trucs en streaming. Quand je suis chez moi et que j'ai déjà lancé deux séries ou deux, plusieurs trucs, bah, s'il y a des films qui débarquent, et que j'ai pas eu le temps de les mater en avance pour écran large, en fait, je les laisse couler et souvent je les rattrape, je vais les rattraper, tu vois. Typiquement, bah là, j'ai toujours pas vu Saltburn, j'ai toujours pas vu Chicken Run 2. Il y a plein de trucs comme ça, plein de films Amazon que j'ai laissé couler ces derniers temps. Et en fait, je me dis, bon, je vais les rattraper à un moment où j'ai le temps et l'envie, mais pour l'instant, tu vois, ils traînent dans ma wishlist en me disant, bon, bah, quand j'aurai le temps.
Mais je comprends parfaitement. Saltburn, Emerald Fennell, après Promising Young Woman, je voulais absolument le voir. Du coup, je me suis jetée sur la projection et j'y suis allée avec Geoffrey. Je sais pertinemment, en plus sortie comme ça pendant les vacances, que si j'étais pas allée à la projo, je ne l'aurais toujours pas vu. J'attendais de fou la sortie de Chicken Run 2, je ne l'ai toujours pas vu. Alors que j'ai très 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 envie de le voir, c'est pas ça le problème, c'est juste réussir. Enfin, c'est même pas réussir à caler ça dans un emploi du temps. Je suis pas ministre, j'ai pas d'enfant, je veux dire, j'ai quand même un emploi du temps qui est assez souple. Et même là, j'arrive pas à trouver, à me dire, c'est le bon moment, allez, je lance Chicken Run 2.
Mais c'est pas ne pas avoir le temps, c'est trouver le temps, et c'est vouloir le trouver aussi, tu vois. Et c'est toujours ça, en fait. Est-ce qu'on veut donner le temps à ce film-là, à ce moment-là?
Et parfois, bah, il y a un peu ce truc de, bah, oui, notre métier fait qu'on regarde des films, on aime ça, c'est une passion, mais parfois aussi, ben, ouais, j'aime bien me poser pour lire, en fait, le week-end, genre, trénouiller un petit peu sur mon téléphone, arroser mes plantes, je vais pas dire faire à manger parce que c'est faux, je ne fais pas à manger. Mais en tout cas, faire juste des activités autre.
Ouais, et ça, je suis d'accord. Je pense que d'ailleurs, ça joue peut-être aussi, pour le coup, c'est peut-être la déformation professionnelle, mais d'être entouré d'écran toute la journée. Ça, je pense même, les gens s'y retrouvent. Tu vois, t'as ton portable, t'as ton ordi, beaucoup de gens travaillent sur ordinateur maintenant, t'as ta télé, t'as le cinéma, t'as tellement d'écran pour tout. À quoi tu consacres ta journée? Moi, je sais que même, tu vois, les jeux vidéo qui forcément m'intéressent beaucoup aussi, sur un week-end, moi, c'est toujours un peu le truc. Je me dis, là, j'ai bien envie de voir ce film-là, mais j'ai aussi envie de jouer à ce jeu-là qui traîne depuis une semaine sur mon PC ou sur ma PS5. Et je me dis, là, c'est peut-être le moment. Là, faut que je trouve deux heures. J'ai envie de jouer, tu vois. Et c'est toujours le dilemme qui finit par arriver où il y a tellement de médias audiovisuels dans tous les sens. À quoi tu consacres ton temps? Mais ça pose aussi finalement une autre question. C'est que on peut se dire que cette surcharge qu'on semble ressentir, elle semble un peu particulière parce que les pratiques semblent avoir changé depuis quelques temps et depuis quelques années avec l'émergence du streaming et d'autres choses comme ça. Mais au fond, est-ce qu'il n'y a pas toujours eu plein de films et plein de séries? Parce que je pense que notre cinéphilie, elle est née un peu comme ça aussi, et peut-être de manière très diverse. C'est juste qu'on n'avait pas le streaming avant et cette sensation d'avoir tout à portée de main comme ça. Mais en plus, je pense qu'on a tous un peu des parcours dans notre cinéphilie assez différents. Est-ce que pour vous, qu'est-ce qui a joué sur le fait d'un coup d'aimer le cinéma? Est-ce que finalement, il n'y a pas toujours eu une forme de boulimie un peu nécessaire qui amène à ce que c'est là qu'on se dit, en fait, j'aime le cinéma parce que je peux me bouffer 3-4 films en une semaine ou voir dans une journée?
Je me reconnais tellement dans ce que tu dis, Antoine, parce que si vraiment je dois poser le point de départ de ma cinéphilie, bah, ça remonterait forcément à mon enfance, parce qu'en fait, vraiment, quand j'étais petite, j'allais assez peu au cinéma, mais par contre, on avait la carte vidéo club, et en fait, on allait toutes les semaines en vidéo club. C'était vraiment genre la sortie familiale et tout ça. Et j'ai toujours eu ce truc de regarder énormément de films, vu que, heureusement, chez moi, il n'y avait pas la diabolisation du temps d'écran, de la télé, il faut pas que tu regardes tel film et tout, machin. Chez moi, il n'y avait vraiment pas ça.
T'as le droit de dire que t'avais une télé dans ta chambre aussi.
J'avais une télé dans ma chambre. Je pense qu'aujourd'hui, si je disais que...
Bourgeois.
J'avais genre 6 ans, je crois, j'avais mon tube cathodique dans ma chambre et j'avais mon lecteur cassette.
Ouais.
Et j'enlevais une cassette du magnétoscope, il y en a une autre qui rentrait. Et c'était comme ça, et je faisais des cycles, j'adorais ça. Bon, en fait, je pense que j'étais juste quand même une gamine qui avait pas beaucoup de vie sociale et qui restait dans sa chambre. Mais en tout cas, je me faisais des marathons toute seule de Disney, de films,
bah
de
ouais.
Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles. Ça y est, j'ai calé le nom du film.
Voilà.
Ça va mieux.
Il aura fallu 20 minutes.
mais en tout cas, voilà, à partir de ce film-là, j'ai commencé à tout regarder en cassette, puis en DVD, en allant très très peu en salle. Mais je me rappelle des piles de cassettes et de DVD ouais. Sur le bureau de ma chambre. Et j'avais des listes, le lundi ce sera ça, le mardi ce sera ça, et je pouvais me regarder 3-4 films dans la journée, mais sans aucun problème. Ouais. Donc la boulimie, en fait, elle était là dès le départ, et c'est après que j'ai un petit peu plus appris à poser un regard critique sur ce que je regardais, ou tout simplement à m'interroger de pourquoi quand j'étais petite j'ai poncé cette cassette, et sans aucun esprit critique j'ai dit moi ça j'aime pas, c'est de la merde.
Ouais.
Genre essayer de comprendre un petit peu mes goûts, et c'est là on va dire que ma cinéphilie est vraiment née, parce que j'ai essayé de mettre un ressenti sur tout ça.
Oui, et puis c'est marrant que tu parles de ça, parce que justement nous, je pense notre génération a été un tournant quand même, avec l'arrivée du DVD, la fin plus ou moins des vidéoclubs, l'arrivée progressive du streaming pendant notre adolescence, fin d'adolescence, ça, on a quand même connu des systèmes très très différents. Et moi, alors, j'ai moins été vidéoclub que toi, j'ai eu un peu de ça quand même, mes parents m'emmenaient parfois, mais on a été à fond VHS. Et moi, surtout, ce qui se passait, c'est que mes parents m'achetaient beaucoup des VHS vierges pour que tu puisses enregistrer ce qui passait à la télé. Et moi, ma cinéphilie, c'est vraiment faite comme ça. Moi, c'était le film du soir sur TF1, France 2, France 3 et M6. Je mettais la cassette, je programmais, j'allais me coucher et le lendemain je pouvais mater le film, tu vois. Et je sais que les James Bond, je les ai fait comme ça. Alors évidemment, moi la révélation ça a été Star Wars et Indiana Jones, où M6 en passait un par semaine. Et Star Wars c'était avant la sortie de La Revanche des Sith, donc j'ai tout fait Star Wars avant de voir le 3 en salle, et c'était un délire mais monstrueux à l'époque.
Et puis même avant les plateformes, moi je me rappelle quand, c'était pas moi qui avait découvert Mega Upload, c'est ma mère qui avait découvert Mega Upload, et qui elle était en mode, c'est genre un vidéoclub infini où t'es pas limité à deux films par personne plus un film si t'as la carte. Ça je m'en souviens bien. Et c'est à partir de ce moment-là aussi que j'ai commencé à avoir une espèce de encore plus de boulimie, parce que là il s'agissait même pas de devoir les rendre les cassettes ou de devoir les choisir, parce que ça aussi quand on rentrait dans les allées du vidéoclub j'avais déjà de la semaine d'avant les films que j'avais gardés en tête, genre parce qu'ils m'attiraient mais que j'avais pas assez de temps ou de place pour les prendre. Donc là Mega Upload est arrivé et foutu, c'était film sur film sur film sur film, jusqu'au moment où je me dise tiens maintenant j'ai envie de rattraper les classiques comme Fight Club ou Requiem for a Dream.
Mais moi tu vois ça m'a fait ça, et c'était juste soudainement tu switches de M6 à Arte et tu fais ah ce film là il m'intéresse aussi, et j'enregistrais et j'ai enregistré très longtemps d'ailleurs, même quand on est passé au DVD avec mes parents j'ai gardé des VHS pendant très longtemps, et notre magnétoscope il a fonctionné jusqu'à vraiment ce que notre télé cathodique meure et que le magnétoscope plus ou moins l'accompagne à ce moment-là. Mais moi notamment certains de mes films préférés, que ce soit E.T. ou, alors évidemment je vais le citer maintenant, Le Masque de Zorro, que j'ai enregistré une première fois à la télé, et j'ai poncé ma VHS mais 50 fois. Quand je vois le film aujourd'hui, ça me paraît improbable de pas avoir la pause pub, tu vois, au milieu qu'il y avait sur TF1 à l'époque, enfin qu'il y a toujours d'ailleurs. Et c'était une expérience vraiment, ça a façonné vraiment énormément de trucs. Et je sais que justement, même pour moi c'était le dilemme de, j'avais un nombre limité de cassettes. Et si je voulais enregistrer un nouveau film, fallait que j'en efface un autre. Donc, fallait réfléchir stratégiquement. Qu'est-ce que tu gardes? Qu'est-ce que tu gardes pas? Mais ça m'a permis de découvrir un nombre incalculable de films.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Film. Ouais, moi c'est marrant, c'est pas du tout comme vous. Donc ça va être rapide, ça va être très différent. Moi je suis arrivé très 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 tard dans le cinéma. Je suis arrivé juste avant, juste après le bac en gros, globalement. Quand j'ai commencé une prépa où il y avait des cours de cinéma et que je n'y connaissais rien, je me suis dit que ce serait bien de s'y intéresser un peu pour que les cours aient un peu de sens. Et donc je suis tombé amoureux du cinéma à ce moment-là, mais donc ça fait un peu plus de 10 ans à peine. Donc j'ai pas du tout eu cette éducation cinématographique ou même sérielle. Mon père regardait beaucoup de séries, mais en vérité, je regardais pas les séries avec lui. Et ma mère aimait bien le cinéma, mais pas au point où on va... aime bien toujours le cinéma, mais pas au point où on y allait toutes les semaines ou pas du tout, enfin vraiment pas. Moi les seuls films que j'allais voir, c'était avec mon père, j'allais voir les films que j'avais adaptés et parce que j'étais assez doué, donc voilà, non, que j'avais lu et qui étaient adaptés, donc les Harry Potter ou alors La Route de McCarthy par exemple, etc.
Oui, grosse ambiance,
d'accord.
Quoi.
Oh, le grand écart.
Moi j'étais vraiment en fait j'étais beaucoup plus littérature,
Old Man, tout ça quoi.
Non, même pas, mais ça aurait pu être le genre de film que j'allais voir, en effet. J'étais beaucoup plus littérature à cette époque que cinéma. Et du coup, ma cinéphilie, en fait, elle s'est pas, elle s'est pas du tout construite vis-à-vis des vidéoclubs ou vis-à-vis de la salle quand j'étais petit, en tout cas, parce que j'ai pas du tout connu ça. Mais quand quand j'ai été adulte, il y avait tout de suite tout ce qui était les plateformes de streaming illégales ou Netflix, l'essor, etc. C'était vraiment à cette époque-là que moi je me suis lancé dans le cinéma et dans les séries. Donc j'ai fait énormément de ma culture là-dessus. Je me suis énormément bouffé de films. Je me suis obligé à faire des cycles, soit des cycles de réalisateurs, de réalisatrices, de d'acteurs, d'actrices, afin de m'obliger à voir un peu tout ce qu'ils avaient fait, mais surtout voir certains classiques de facto, me faire des cycles de saga tout simplement, donc de voir tous les Indiana Jones d'un coup. Les Star Wars, je les ai découverts assez tard, je les avais vus mais sans vraiment les regarder, je m'en souvenais pas, comme les Matrix par exemple. Et c'était vraiment pas quelque chose qui était dans ma façon de voir. Et mais par contre, je suis vraiment passé par une phase de, non pas de boulimie parce que j'aime pas ce terme, mais de gavage, où je regardais 5 ou 6 films par jour.
Ouais.
Vraiment. Et notamment où je faisais quand je faisais mes études à Nice, que un de mes potes m'avait dit au lieu de payer en fait à chaque fois le cinoche, ce serait cool qu'on se prenne un pass tous les deux et comme ça on peut y aller régulièrement. Et je me suis pris un pass, depuis je l'ai toujours. Et le week-end, quand je voyais qu'il y avait plein de films que j'avais envie de rattraper et que j'avais pas eu le temps d'y aller pendant la semaine, je me faisais 5 films par jour, enfin chaque film un samedi, avec un programme très précis où je l'envoyais à mes potes qui aimaient bien le cinoche. Et puis s'il y en avait un qui voulait me rejoindre au film 3 à 15h20 dans telle salle, il savait que j'y étais, quoi. Et ça envoyait comme ça. Mais j'ai pas du tout eu la même façon de découvrir le cinéma comme vous. Et parfois, pour aller plus loin, je me faisais aussi des formes de petits festivals personnels. Je prenais certains films qui étaient passés à Cannes, je faisais une sélection un peu à la sauce Geneviac Alexandre qui fait n'importe quoi et qui, genre, je prends 5 films asiatiques, 6 films américains, 5 films européens, machin, avec des réalisatrices et réalisateurs, et puis bam, je faisais mon petit festival comme ça. Après, je faisais mon petit palmarès perso. Et comme ça, je découvrais un peu toutes les formes de cinoche.
Ouais. Et c'est marrant parce que vous parliez tous les deux du coup de termes marathon, donc que ce soit de VHS, que ce soit de sortie en salle. Mais en fait, ça renvoie du coup à cette idée de l'infobésité, parce que du coup, quand ils définissent l'infobésité ou la surcharge informationnelle, on parle souvent le fait que les ressources d'une personne soient plus suffisantes, et notamment cognitives, et de temps, capacité d'attention et de compréhension, pour répondre en fait à la surcharge d'infos que tu reçois en fait. Et moi, c'est un peu ça finalement que je pose, vraiment d'un point de vue personnel et pas tellement d'un point de vue professionnel qu'est le nôtre. Est-ce qu'on a encore le temps de digérer tout ce qu'on regarde en fait? Parce que justement, il y a l'air d'y avoir tellement de choses à la fois, que ce soit, en France, on est un des rares pays à avoir plus de 10 films qui sortent en salle chaque semaine. Il y a toutes les semaines Netflix, Disney+, Prime et plein d'autres qui nous sortent des choses dans tous les sens. Est-ce que vous avez cette sensation déjà que c'est trop? Et est-ce que, comment on fait pour arriver à digérer ou pas les choses justement?
Moi, je fais clairement partie des personnes qui ont du mal à digérer. Déjà, j'oublie, je pense, assez facilement les films. Pour que je me rappelle d'un film et pas juste d'une scène d'un film ou du pitch ou du concept du film, faut vraiment qu'il me marque. Et j'ai aussi un peu ce truc de, il faut vraiment que je rentre dedans, sinon, mais... je m'endors devant le film.
Ouais.
Et c'est ça, en salle ou chez moi, hein, j'ai vraiment ce truc, j'arrive pas à avoir la démarche de m'investir dans un film qui de base me laisse de marbre. Si un film me laisse de marbre, je me dis bon bah tant pis, je suis passé à côté, c'est pas grave, peut-être que je retenterai un jour, peut-être que je retenterai jamais, hein, au pire être passé à côté d'un film, il y a rien de grave là-dedans, le cinéma est suffisamment riche pour qu'il ne se résume pas à un film. Et après, en général, je me dis, tiens, j'irai bien voir ça en salle, au final, j'y vais jamais, et j'attends que les films sortent en VOD. Voilà, vu que en plus, j'ai pas tellement... Je pense, contrairement à beaucoup de cinéphiles, et je dis pas qu'un tel a tort ou a raison, mais j'ai pas trop ce truc de sacralisation de la salle de cinéma, étant donné que j'y suis... très peu allé quand j'étais enfant. J'ai vraiment découvert tous ces films-là chez moi et j'ai un peu un confort émotionnel à regarder un film chez moi, de me dire que je peux réagir comme je veux, je peux chialer autant que j'en ai envie, je peux dire aux personnages de fermer leur gueule quand ils m'énervent. Enfin, j'ai vraiment une liberté de ressenti et d'expression que chez moi, que j'ai pas dans une salle.
Ouais. Bah, c'est marrant. Moi, c'est vrai que c'est pas tellement la sacralisation de la salle que le fait que je sais ce que la salle m'apporte, que m'apporte pas mon chez moi. C'est que la salle, je suis obligé de m'y déplacer. Donc, je suis obligé de faire un effort si je veux vraiment voir un film. Je suis obligé de me dire, c'est à quelle heure la séance? La séance m'attend pas. Faut que je sois à l'heure. Je peux pas mettre pause pendant le film. Tu vois, ce genre de truc-là. Donc, moi, je sais que c'est un des trucs qui me motive d'ailleurs à me dire, je veux vraiment voir ce film en salle parce que s'il sort plus tard en VOD, et que j'ai déjà une myriade de choix de trucs à regarder chez moi, la flemme en fait. Enfin, tu vois, j'ai une DVD tech longue comme le bras avec des films qui m'attendent sur le coin de ma télé pour bien me faire culpabiliser, qui sont encore sous leur blister, les trucs. Et où en même temps, bah, je revois des séries que j'aime bien et des trucs comme ça. Et je me dis, la salle, c'est pour ça que c'est important, parce que moi, ça m'oblige à me déplacer et à me dire, là, celui-là, je veux pas le rater maintenant, parce que je sais qu'une fois que j'aurai raté, ça va peut-être être beaucoup plus difficile que je le rattrape plus tard. Et donc, c'est important que je sois là quand il faut.
Ouais, moi je suis un peu d'accord avec toi, parce que j'avais pas mis ces mots là sur ce phénomène, mais en effet le fait que le cinéma y a un horaire très précis que tu dois respecter, etc., ça m'oblige à faire une démarche de est-ce que j'ai vraiment envie de voir ce film, et oui, du coup j'y vais, mais il faut que je sois à l'heure, machin, etc. Et c'est vrai que ça m'aide parfois à me pousser un peu, ça m'a beaucoup aidé notamment quand j'étais en études à voir les films que j'avais envie de voir. Parce que quand c'était la dernière séance, je me souviens notamment Nebraska par exemple, que j'étais allé voir vraiment en dernière séance, ou Casse-tête chinois, pas forcément des films que j'avais envie de voir absolument, mais je me suis dit, bah c'est la dernière séance. Donc,
la sensation d'urgence à ce moment-là.
C'est ça, une forme de procrastination de la découverte, hein, d'une certaine manière. Mais,
J'étais déjà arrivé à de telles extrémités d'attendre les dernières séances, et je pense que c'est le dernier exemple que j'ai en tête d'une double séance cinéma que je me suis faite dans la même journée, c'était À plein temps et La nuit du 12.
Super programme bien fun, hein, ouais, du coup,
on ne ressort pas stressé, hein.
Et justement je m'étais fait là, oui, bon, déjà le choix des films aidait pas, mais clairement je m'étais dit que si j'avais été chez moi, j'aurais en fait tout autant apprécié les films. Et peut-être aussi j'ai ce truc du, si j'apprécie pas un film chez moi, je l'apprécierais pas en salle. Enfin, c'est pas, enfin, vu que j'ai, par exemple, contrairement à toi, Antoine, je suis beaucoup moins sensible et réceptive à la qualité du son. Bon, en même temps, je suis à moitié sourde, j'entends rien aussi, donc.
C'est vrai. C'est vraiment notre mamie, en fait. Après, c'est mamie le soir, elle entend plus de
Mais, on va dire que, en fait, c'est pas la taille de l'écran vraiment qui, enfin, c'est pas la taille qui compte.
Si, c'est la taille qui compte, Déborah.
Mais on va dire qu'un film qui réussit à m'avoir chez moi, oui, ce sera certainement puissance décuplée en salle. Mais par contre, à l'inverse, si un film me touche pas plus que ça chez moi, je pense vraiment pas que ça va changer quoi que ce soit de le voir sur grand écran ou avec un super son, avec une super image et tout ça, étant donné que je juge et je prends les films sous un prisme émotionnel, je pense, un petit peu plus que vous. Donc en fait, au bout d'un moment, si un film avec un vieux reflet de traces de doigts sur ma télé, un son, bon, encore j'ai une bonne barre de son Bose, donc franchement ça va, mais avec le bruit
vas-y, amuse-toi.
Oui, j'avoue, putain. J'avoue, c'est un peu mon côté bourgeoisie, tu vois, genre j'ai une barre de son.
Alors par contre, ma barre de son, je pourrais rien faire sans elle, et mes voisins me détestent quand je regarde Avatar 2 à fond.
Mais voilà,
j'entends
les voisins qui claquent leur porte à côté, voilà, j'entends la machine à laver au-dessus, et pourtant, c'est quand un film vraiment me cueille, bah tout ça, en fait, j'arrive à l'occulter. Alors que bizarrement, j'arrive pas à occulter les gens dans une salle de cinéma, c'est vraiment très bizarre. Mais c'est pour ça que, ouais, j'ai pas ce truc absolument de devoir aller voir le film en salle. Et si je le rattrape 8, 9, 10 mois après, bah c'est pas très grave en fait.
Bah, en fait, je trouve que moi, tu vois, c'est plus aussi le truc du, il y a la paralysie du choix, en fait. Je trouve que moi, c'est la question que je me pose, parce que je veux pas faire le vieux con qui dirait que l'avantage de la télé avant par rapport à Netflix et autres, c'est que t'avais une programmation et t'avais parfois un accompagnement, tu vois, les séances de deuxième partie de soirée où t'avais un présentateur qui te introduisait le film avant. Sur Arte, ils faisaient souvent ça aussi. Et où, du coup, je me disais, si je veux découvrir ce film-là, bah c'est l'occasion, il passe là. Et il y a plein de films que j'ai découvert comme ça. Et quand j'arrive sur Netflix, même si parfois ils ont des classiques d'ailleurs, bah je me dis, oh là, pas ce soir. La flemme, ou oh, ça dure 3 heures, je suis pas dans le mood là ce soir. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a cette paralysie, tu vois, du choix, mais en fait je sais pas tellement si c'est un truc vraiment moderne et contemporain, parce qu'au final moi des fois j'ai le même sentiment devant ma DVD tech quand justement j'ai plein de trucs que je me suis acheté de côté et que je me dis, oh là, ce soir je sais pas si c'est vraiment ça que je veux regarder.
Bah, tu vois, je parlais juste avant de quand j'étais au vidéoclub, je pouvais prendre 3 cassettes/DVD, pas plus, parce qu'après fallait payer un supplément et tout ça. bah, y avait déjà ce truc du « Oh mon Dieu, le pan de mur est immense, qu'est-ce que je choisis ? La semaine dernière, j'avais envie de regarder ça, mais là, cette semaine, je vois cette jaquette-là qui m'attire énormément et que j'ai envie de regarder. » Donc, il y avait déjà un peu cette paralysie du choix et se dire « Ah mon Dieu, il y a trop de trucs, mais c'était encore... » Bon, j'étais beaucoup plus jeune, évidemment, il n'y avait aucun enjeu professionnel ni rien, mais c'était plus excitant que paralysant, frustrant ou genre, mon Dieu, en fait, j'ai juste envie de partir parce que il y a trop de choix, je ne sais que faire.
Mais est-ce que tu as des solutions par rapport à ça, maintenant, quand tu es face au dilemme cornélien de ce genre de truc?
Oui, elle attend 8 ou 9 mois, tu vois. c'est facile comme ça, au
et
moins.
Fait, oh, bah, c'était pas mal l'anatomie d'une chute, finalement.
Ouais, des solutions. Je vais pas mentir. Hein. Il y a clairement certaines fois avec mon compagnon qui est cinéphile aussi. Hein, donc c'est même pas comme si j'avais un petit ascendant de lui dire non, attends, fais-moi confiance, on va regarder ça. Tu vas voir, non, je peux pas lui faire à l'envers.
Vraiment débattre pour savoir ce que vous allez regarder.
Voilà. Et je vais pas mentir, hein, il y a clairement certaines fois, on se rend compte que genre il est 22h, ça fait 1h30 qu'on est en train de chercher un film sur toutes les plateformes et tout ça, et à la fin on est juste en mode bah je vais aller dormir dans pas très longtemps, il est trop tard pour lancer un film, genre bon bah viens on va passer le reste de la soirée à discuter, tu vois, on fait ça aussi.
Ça arrive ça.
Mais on papote, mais on papote beaucoup, voilà, on se coupe des écrans. Ou sinon c'est la solution tirage au sort. On va sélectionner, déjà ça nous prend du temps, hein, la sélection de 5 ou 6 films. Okay. On tape tirage au sort sous Google, on tombe sur un site toujours le même, on rentre le nom des films et c'est un film au hasard qui tombe. Mais déjà pour faire la sélection des 10 films, c'est compliqué. Ou alors on a un panier dans notre salon avec des plein de noms de réalisateurs et réalisatrices.
Ça, c'est bien, ça.
Et en fait quand on sait pas, on pioche un nom et là pareil, on va pas discuter 1000 ans de quel film de Spielberg ou de Bigelow on va se faire, en fait on fait dans l'ordre. Et comme ça permet de faire des cycles, de nourrir sa cinéphilie et en plus de se dire non stop, voilà, le choix il est arrêté, on arrête de chercher pendant 3000 ans et on se pose enfin devant un film.
Bah c'est ça, ouais. Toi t'es un peu pareil, Alex.
Ouais, moi je fais pas de tirage au sort spécifique, mais après bon, c'est un peu une déformation professionnelle, mais par exemple quand on avait fait notre papier sur Billy Wilder pour revenir sur sa carrière, etc., ça m'a fait beaucoup de bien parce que je me suis dit tiens, je sais pas trop quoi regarder en ce moment, j'ai envie de voir des classiques. Du coup, je me suis refait une bonne partie de la filmo de Wilder, mais dans l'ordre, même ceux que j'avais déjà vus potentiellement. Et comme ça, ça me fait des découvertes, des revoyures, etc. Et ça me permet de me dire, tiens, je n'ai pas besoin de réfléchir ce soir à quoi je vais regarder. Ce soir, c'est certains les mêmes choses. Ce soir, c'est machin, etc. Et comme ça, je fonce, quoi.
Oui, et puis ça te donne un contexte aussi, parce que comme tu reprends dans l'ordre, c'est quand même plutôt agréable aussi de revoir les films dans ce contexte-là.
Ouais, moi j'aime beaucoup regarder, quand je découvre des films ou alors que je les redécouvre ou que je les augmente, quoi, que j'en découvre plus pour en savoir plus sur les réalisateurs ou les réalisatrices en question, j'aime beaucoup les voir de manière chronologique. Ça me permet on voit vraiment la manière dont les réalisateurs ont pu avancer, ont pu changer, ce qui a pu être un déclencheur vis-à-vis d'une certaine thématique dans leur filmographie, etc. Donc j'aime beaucoup ça, mais ça n'empêche que je suis aussi paralysé régulièrement aussi comme toi sur ce que je vais regarder, notamment quand je traîne sur Netflix et que j'ai ma liste, hein, qui doit vous compter,
une wishlist énorme et où les films disparaissent au fur et à mesure. Donc bah, je fais, j'aurais dû le regarder,
ça, celui-là. Mais parfois, c'est exactement ça. Parfois, notamment j'ai Mubi et tout, mais Mubi, la liste, elle reste la même, que le film soit là ou plus là. Et parfois je me dis, ah putain, là, c'est le moment où je vais regarder ce film qui est sur ma liste. Et là tu fais, ah bah il n'y a plus que la bande-annonce, parce que le film n'est plus là en fait.
Oui, Mubi, j'avais pour le coup, c'est un système que j'aimais bien, parce que tu as 30 jours pour regarder un film, et donc le truc il t'attend pas, donc ça disparaît, un film rentre tous les jours et un film sort tous les jours, dans le truc principal.
Non, ça a changé, c'est pas Mubi,
ah, ça a changé.
Mubi
fonctionnait comme ça pendant un temps.
Ça, bon, mais, ça
et moi c'était
bien,
pour me motiver à voir des classiques, je faisais, bon là vas-y, ce soir c'est le moment, je me fais la trilogie bleu-blanc-rouge.
Outbuster qui fonctionnait comme ça.
Non, c'était Mubi qui fonctionnait comme ça.
Et pourtant, il y a un truc qui est fou, c'est Netflix, t'as pas de catalogue. Enfin, c'est pas comme sur Prime Video, quoi. Tu peux pas à un moment voir tous les films qui sont disponibles sur la plateforme et même là, j'arrive à me perdre. Mais certaines fois, on est tellement tombé bas que je suis arrivée au bout du catalogue Prime Video. Genre, quand tu fais défiler tous les films qui sont disponibles sur la plateforme, c'est...
What?
Et je suis déjà arrivée au bout.
Il y a 5000 films, hein.
Oui, non, mais il y en a énormément. Et quand je te dis que parfois, genre, je perds beaucoup de temps à chercher un film, on fait tout le catalogue comme ça et on arrive au bout et on se dit, Ok, on a dit quoi il y a 10 minutes et quoi le premier où on a fait ouais, pourquoi pas.
Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Voilà, moi je suis pas arrivé au bout du catalogue Prime Video, mais ça m'arrive énormément de scroller pour découvrir quel film je veux avoir, et puis je vois un film, je dis ah, peut-être pas maintenant et tout, et puis au bout de 45 minutes, il y a ma chérie qui me fait t'as toujours pas choisi ton film. Et qui me dit bah attends, mais bah regarde, prends celui-là, il a l'air bien et tout. Et du coup parfois je prends son choix, et au bout d'une demi-heure, je suis en mode ah bah bon choix, ou alors parfois je suis en mode ouais, non, pas envie en fait. Et du coup, je regarde pas de film parce qu'il est 00h30. Et voilà.
C'est marrant parce que vous êtes vachement plus organisé que moi. Parce que moi, je suis vachement plus chaotique dans mes visionnages, où je me dis juste, des fois, c'est plus l'urgence. Il faut que je regarde ça pour le boulot, ou il y a tel truc où il faudrait que je prépare. Et dans ces cas-là, moi, c'est souvent ça qui va un peu décider pour moi. Mais moi, j'avoue que c'est aussi pour ça que j'avais envie qu'on parle un peu de ce sujet-là aujourd'hui. Parce que moi, ça me provoque un truc à force, qui est une forme quand même. Alors, je veux pas abuser, hein, mais d'angoisse quand même, qui, pour moi, justement, se connecte vraiment à l'idée de surcharge informationnelle que tu peux ressentir quand t'es trop sur BFM ou sur Twitter, et que beaucoup de gens ressentent, voilà, face à l'info en général. Mais moi, je la ressens face aux films et aux séries, parce que ce sentiment, déjà, en tant que cinéphile, que tu pourras jamais tout voir, que même si tu passais ta journée à regarder des films, tu pourras jamais tout rattraper, que ça soit dans les nouvelles sorties ou dans le cinéma de patrimoine. Et moi, c'est au stade où, surtout le week-end, ça provoque un truc. Quand j'ai des week-ends où je me dis, je sors pas, t'as pas des trucs à faire, tu vois pas d'amis, t'as pas de, j'ai des amis, hein, mais je les vois pas tous les week-ends, tu vois, et des fois, quand t'es chez toi à te dire, j'ai rien à faire, je peux regarder des films, tu te dis, mais qu'est-ce que je regarde, du coup? Qu'est-ce que je regarde à ce moment-là? Et est-ce que je consacre tant de temps, si je consacre tant d'heures, pour quel film? Est-ce que je vais pas regretter de pas avoir plutôt regarder ce film-là à la place d'un autre? Et vraiment, ça arrive au stade où t'arrives au dimanche soir, et des fois, d'ailleurs, à cause de cette paralysie, t'as pas vu grand-chose, et t'arrives, tu fais, ah ben en fait, il y a plus beaucoup de temps et je peux juste regarder un film sur mon dimanche soir.
T'as la sensation d'avoir perdu ton week-end.
Ouais, c'est ça. T'as la sensation d'avoir perdu ton week-end. Alors qu'en vrai, des fois, tu t'es maté trois films, trois, quatre films, tu vois. T'as pas rien fait, mais ça provoque ce truc, moi, qui à force est un peu chiant d'ailleurs à ressentir, je trouve.
Je suis assez d'accord, oui. Moi, j'ai un peu ce truc de, je culpabilise beaucoup de regarder des films et des séries que j'ai déjà vues 1000 fois, que je connais par cœur, qui sont mes zones de confort et mes doudous, au lieu de découvrir d'autres films. Mais, en fait, cas typique, samedi dernier, avec mon chéri, on se disait, bon, allez, qu'est-ce qu'on regarde et tout, les trucs habituels, au bout d'une demi-heure, on trouve toujours pas ce qu'on veut regarder, un moment, tous les deux, on voit passer Fast and Furious 7, je crois, sur Netflix,
oh là là là
on se regarde, tous les deux, avec l'air un peu coupable, mais bon, on se refait Fast and Furious 7, et j'étais en mode, ouais, allez, vas-y, remets Fast and Furious 7, et donc, du coup, voilà, on se refait des films qu'on a déjà vus, mais aussi, parfois, il y a... C'est tellement difficile, je trouve, de séparer pleinement vie professionnelle et ce que tu regardes pour le boulot et ce qui se passe chez toi. Si là, par exemple, Emma Stone, on faisait un dossier sur Emma Stone, sur ses films, je pense que psychologiquement, ça m'aurait fait chier de regarder un film avec Emma Stone parce qu'on était en train d'en parler au boulot, parce qu'on était dedans et tout. Donc en fait, j'ai vraiment ce truc de, j'essaie de prendre des trucs inverses au boulot. Si on a passé genre toute la semaine à parler de Ryan Gosling, je vais rien regarder avec Ryan Gosling. Enfin, c'est que des trucs comme ça. Et là, Fast and Furious, on s'était dit, bon, bah allez, vas-y, c'est le bon choix.
Ouais. Mais est-ce que c'est pas pour ça, tu vois, d'ailleurs, parce que tu parles de cette culpabilité-là que beaucoup de gens ressentent, je pense, mais on le voit aussi d'ailleurs sur les charts des notamment en streaming, mais pas que d'ailleurs, que il y a des doudous, justement, il y a des trucs que les gens regardent tout le temps en boucle, enfin tu vois, le cas de Friends, notamment sur Netflix, mais plein d'autres séries sur Disney+, c'est finalement toujours les mêmes films qui ressortent, c'est c'est Vaiana, c'est Zootopie pour les trucs les plus récents, ou bien évidemment La Reine des Neiges, alors que je suppose que les enfants regardent, mais peut-être pas que, tu vois, et c'est vraiment des trucs qui reviennent constamment, et on a un peu besoin, je pense, et des fois, effectivement, je suis comme toi, je culpabilise, mais... Je me remets mes films doudou, je me remets justement Le Masque de Zorro que je regarde religieusement au moins une fois par an. Récemment, tu vois, quand on faisait Ryan Gosling, par exemple, quand on préparait la revue sur Ryan Gosling, je me souviens que j'avais The Nice Guys où je me disais, j'ai pas besoin de le revoir, je le connais déjà par cœur, The Nice Guys. Et je me suis dit, non mais allez, sérieusement, je me remets juste la première demi-heure pour m'assurer que le tempo comique, tu vois, pour pouvoir l'analyser. Et en fait, j'ai laissé le film tourner, tu vois. J'ai fait, ah ben c'est trop bien, vas-y, c'est bon. J'ai d'autres trucs à regarder à la place. Mais non, en fait, j'ai laissé le film tourner. Je l'ai regretté après. Mais au fond, j'étais bien content de me remater le film.
Ouais, clairement, là, j'ai fait une vidéo sur Lost. Je me retiens viscéralement de me refaire tout Lost parce que je me dis, bah au moins, voilà, c'est le truc facile, j'ai envie de regarder un truc, de me détendre, je sais pas quoi lancer, je lance automatiquement ça, j'ai pas de mauvaise surprise, tout va bien se passer, en plus j'aime bien cet univers et je le fais pas encore, on reverra la semaine prochaine si j'ai craqué ou pas, là pour l'instant je le fais pas parce que je sais que je vais culpabiliser, je vais me dire putain mais non j'ai ça à regarder, j'ai ça, Alex à chaque fois il me conseille je sais pas combien de séries qui sont trop bien et tout, et à chaque fois je suis là genre Succession, bah j'en suis à mon troisième revisionnage de The Office donc je sais pas trop.
Mais c'est pour ça qu'on a toujours pas regardé For All Mankind d'ailleurs.
Oui voilà.
Oh non, non mais ça j'abuse, ça abuse.
Non mais autant pour les films, j'arrive facilement à déculpabiliser en me disant que au max du max du max c'est 3 heures que j'ai entre énormes guillemets perdu. Autant pour les séries, je sais que c'est un investissement. Je me dis mais pourquoi je m'investis sur quelque chose continuellement? Genre là, je suis en train de me refaire tout l'Attaque des Titans et j'essaie de trouver la justification de bah oui, mais par rapport à la fin, c'est pour mettre en perspective et du coup pour voir ce que j'avais pas vu.
Oui,
et...
il faut arriver à se déculpabiliser de ça. Et je suis pareil, en ce moment, je revois tout Grey's Anatomy parce que j'aime ça, c'est mon kink, et je revois tout depuis le début et je me dis non mais analyser d'un point de vue sociologique, c'est super intéressant, mais au fond non, c'est juste que je kiffe regarder la série, c'est tout.
Mais on a quand même un peu besoin de se trouver une excuse de non mais c'est pour le travail, c'est pour la science.
Ça,
pour
ça servira pour écran large à un moment donné. Je vais pas me refaire les 19 saisons de Grey's Anatomy sans que ça serve à un moment donné.
Non, mais c'est marrant que vous replongiez souvent, en tout cas pour les séries, dans des séries que vous avez déjà vues. Alors que, justement, personnellement, je ne prends jamais le temps de revoir des séries que j'adore. Ou alors très rarement. En tout cas, avant que j'arrive à écran large, je le faisais, mais maintenant plus du tout. Alors que j'ai très envie de me refaire The Leftovers, que j'ai très envie de me refaire VIP, que j'aimerais énormément me refaire Succession maintenant que tout est fini, etc. Mais en fait, je pense que dans la rédaction, je suis celui qui regarde le plus de séries à l'année, on va dire des nouvelles séries,
ouais,
des nouvelles créations. Vraiment. Mais j'ai tellement envie de découvrir ce qui se fait de nouveau que je me prends plus du tout le temps de revoir ce que j'ai adoré. Et j'aimerais énormément prendre le temps. Et parfois je me dis bah pendant les vacances je pourrais me refaire la saison de cette série que j'ai bien aimée. Mais en vérité pendant les vacances je me repose, je regarde pas de série ni je regarde de films. Ouais. Donc voilà. Et pour les films c'est un peu pareil. Je regarde assez rarement ce que j'ai. J'essaie de découvrir un maximum de films que j'ai pas vus. Afin de toujours augmenter, enfin de découvrir de nouvelles choses quoi, tout simplement. Mais moi j'ai pas vraiment de, enfin c'est plus pour les soirs où je suis resté de planté devant Netflix à scroller pour rien et puis qu'il est minuit 30 et de toute façon même si je commence le film j'arriverai pas au bout.
Oui, parfois, tu trouves un truc que tu connais déjà.
Un truc que j'ai déjà vu et que j'aime bien. Et moi, c'est pas des films doudous comme vous, mais c'est plus souvent parfois je me les lance juste sur mon téléphone, pas parce que je sais que je vais pas les regarder en fait. C'est juste je vais me mettre sur le côté, je vais mettre le son dans mon oreillette et je vais entendre le début de Roma et je vais m'endormir.
On passe Fast and Furious 7, tu vois, qu'ils repassent Roma.
On est pas sûr le niveau.
Le début de Once Upon a Time in Hollywood, le début de Manque aussi, j'aime beaucoup. Ouais. Ouais, bah c'est juste. Ouais, je me mets le début puis au bout de 15 minutes je suis fini, là je suis plus là, genre mon cerveau il est encore dans l'oreillette.
Oui, c'est
mais...
ton ASMR
ouais, bah il y en a, ils entendent des ils adorent, ils font oui bien sûr. Moi je déteste ça vraiment, ça pourrait me faire des cauchemars. Donc
mais Roma finalement c'est pas mal.
Ouais bah c'est mon petit film.
Mais tu regardes
moi.
Pas jusqu'au bout?
Non mais ça m'arrive en fait. Il y a beaucoup de films que je ne lance plus trop, notamment Il était une fois en Amérique qui est vraiment un de mes films préférés, et je le lance plus parce que je ne suis pas capable de l'arrêter si je le commence. Mmh. Et comme il fait 3h45 c'est un peu compliqué quoi, c'est à dire que ah bah oui du coup voilà, donc à la limite ouais, il y en a certains que je lance plus parce que sinon je suis obligé, comme Chantons sous la pluie aussi, je suis pas vraiment capable de l'arrêter. Donc je ne lance plus vraiment, mais si je lance c'est pour le regarder en entier.
C'est plus noble que Les Choix de Déborah, clairement.
Ouais, parce que là moi j'allais clairement citer bon Jurassic Park, ça va, c'est noble, après c'était Peur Bleue tout de suite.
Ouais, mais tu vois, mais après ça je comprends, en vrai c'est aussi une manière de se détendre hein. Clairement après toi tu te détends tu vois devant Peur Bleue, mais moi Once Upon a Time in Hollywood ça me détend parce que je trouve ça beau, etc. C'est pas la même forme de détente, mais c'est une détente personnelle et c'est ce qui compte.
Et je pense que c'est aussi pour ça que je voulais qu'on en parle, parce que ça rappelle que ce qui relève quand même si on l'analyse beaucoup et tout ça, le divertissement aussi, il devrait jamais nous créer cette espèce d'angoisse du coup du trop plein, de cette sensation de surcharge permanente qu'on peut peut-être ressentir à certains moments. Et voilà. Mais bon, vous voyez, du coup, ça fait du bien de parler de tout ça, et c'est même marrant parce que la surcharge informationnelle est analysée à la base dans les milieux professionnels, et les études montrent que des rues comme celles qu'on est en train de faire à l'heure actuelle sont devenues de plus en plus essentielles pour organiser et canaliser justement le surplus d'infos dans les entreprises. Alors justement, après avoir parlé de tout ça d'un point de vue perso, on fera une autre réu la semaine prochaine pour parler cette fois de cette surabondance de films et de séries par rapport à écran large et à son fonctionnement. Alors bon, c'est juste dommage que, comme d'habitude, on n'enregistre pas ces rues pour en faire des podcasts, parce que je suis sûr que ça intéresserait nos fidèles lecteurs lors de leur session de jogging. Mais bon, pour ça, il faudrait rappeler aux auditeurs de s'abonner, de partager, de mettre 5 étoiles sur leur appli d'écoute et de mettre un commentaire. Et on pourra au passage remercier les gens de nous soutenir, parce que ça reste le plus important.
Et tout à fait.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.